VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 1er juillet 2016, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
RDC, Moïse Katumbi a accusé hier le président Joseph Kabila d'entretenir le flou autour de son avenir politique.
Quatre réfugiés ivoiriens pro-Bagbo, dont l'ex-ministre de la Défense Kadé Bertin, sont arrivés hier soir à Abidjan en provenance du Ghana.
Au Nigeria, le président Buhari a exhorté hier les leaders du delta du Niger à aider à pacifier cette région.
En Grande-Bretagne, la ministre de l'Intérieur, Theresa May, en bonne position maintenant dans la course à la succession de David Cameron.
Ici aux États-Unis, le secrétaire à la Défense, Ashton Carter, a annoncé hier qu'il n'y aura plus de restrictions au recrutement des transgenres.
Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi qu'à la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'opposant congolais Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle, a donc accusé jeudi le président Joseph Kabila d'entretenir le flou autour de son avenir politique. Pour lui, cette attitude risque d'enfoncer la République démocratique du Congo dans une crise plus grave.
Dans son message à la nation, M. Kabila avait raté l'opportunité d'apporter des garanties concrètes à l'organisation de l'élection présidentielle et l'obligation de rassurer sur son départ le 19 décembre 2016, a déclaré M. Katumbi dans un communiqué. À la veille de la fête nationale commémorant l'indépendance du pays, le 30 juin 1960, le président Kabila avait déclaré « Sans fixer d'échéance, rien ne pourra arrêter le train des futures élections ».
Au Congo-Brazzaville, le premier secrétaire de l'UPADS, la principale formation de l'opposition, Pascal Tsati Mabiala, a demandé hier à Brazzaville la libération des prisonniers politiques avant de parler d'un quelconque dialogue avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Monsieur Tsati Mabiala a aussi profité de sa première sortie médiatique depuis les dernières jouxtes post-électorales pour assurer ses propres militants que l'UPADS n'avait conclu aucun accord secret avec le PCT, le parti au pouvoir. De Brazzaville, notre correspondant Nguela.
Après de longues semaines de silence, Pascal Tsati Mabiala est revenu au devant de la scène politique. Il lui demande un dialogue avec le pouvoir pour assainir le climat politique.
Nous ne pouvons pas en même temps parler de dialogue, de trêve, si en même temps en nous, il n'y a pas l'idée d'élargir les amis, les frères, les camarades qui sont aujourd'hui embastillés, certains dans les commissariats, d'autres à la DGST et d'autres encore à la maison d'arrêt, quelquefois sans jugement. Bien sûr, implicitement. Nous demandons s'il y a un dialogue. C'est pour que ces camarades soient mis en liberté. Il n'y a aucun doute de notre part qu'ils le seront si le dialogue est convoqué. Comment pourrait-on convoquer un dialogue avec des gens qui sont en prison? Je crois que si notre message est entendu, il va de soi que ces camarades recourront la liberté pour venir assister au dialogue. Du point de vue du droit, ce n'est pas à nous de juger. Et il faut que le politique prenne le dessus du judiciaire.
Pour le premier secrétaire de l'UPADS, accusé d'avoir vendu le parti de l'ancien président Pascal Issouba au PCT, il n'y a jamais eu d'accord avec ce parti au pouvoir.
Nous n'avons pas d'accord avec le PCT pour gouverner ensemble, pour nous répartir la richesse. Il n'y en a pas du tout. Mais nous avons pris acte, ça a donné l'apaisement.
Pascal Tsati Mabiala a profité de cet échange avec les journalistes pour rassurer ses propres militants dont le comportement a entre-temps été très hostile à son égard. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Et puis, plus de 20 années de litige et ce n'est pas fini. La justice française a validé hier la saisie d'avoir en France du Congo. Un rebondissement de plus dans le conflit qui oppose Brazzaville à Morsen Hojej, un homme d'affaires libanais. La justice s'appuie sur une renonciation à son immunité d'exécution consentie en 1993 par le Congo, dont les avoirs en France auraient sans cela été protégés. Les précisions de John Linden.
L'affaire remonte au début des années 80. Mohsen Hojej, issu d'une grande famille libanaise très présente en Afrique, dirige alors au Congo la société Commission Import-Export. Proche du président Denis Sassou Nguesso, il obtient plusieurs contrats entre 1983 et 1986. En 1986, seule une petite partie de la facture de base de 168 millions d'euros est réglée par le gouvernement. Par deux fois en 2000 et 2013, l'homme d'affaires libanais a obtenu gain de cause devant des tribunaux d'arbitrage qui ont condamné le Congo à lui verser au total plus de 400 millions d'euros. La somme n'a depuis cessé de gonfler. Avec les intérêts, son entreprise réclame désormais quelque 950 millions d'euros au Congo. De leur côté, les autorités congolaises ont contre-attaqué en réclamant à la société Commission Import-Export, déclarée en faillite en octobre 2012, une dette fiscale et sociale de près de 1,3 milliard d'euros.
Quatre réfugiés ivoiriens pro-Gbagbo, dont l'ex-ministre de la Défense Kadé Bertin, sont arrivés jeudi soir à Abidjan en provenance du Ghana, qui accueille quelque 11 000 Ivoiriens ayant fui le pays à l'issue de la crise post-électorale de 2010-2011. Le retour des réfugiés est un enjeu majeur pour la réconciliation nationale et l'une des priorités du président Alassane Ouattara, plus de 5 ans après la fin de cette crise.
Au Burkina Faso, le parquet militaire va étendre la contre-expertise ADN aux 12 autres victimes dans le dossier Thomas Sankara. L'objectif est d'étoffer le dossier et d'éviter un vice de procédure. C'est ce qu'a indiqué hier Maître Bene Wende Sankara, l'avocat de la famille Sankara. Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, a été tué lors du putsch qui porta au pouvoir le 15 octobre 1987 l'ex-président Blaise Compaoré.
Les leaders du delta du Niger doivent aider à pacifier cette région. Un appel lancé par le président nigérian Muhammadu Buhari. Michel Joseph.
La multiplication des attaques par des militants réclamant une plus grande part des revenus pétroliers a fait chuter la production pétrolière nigériane à son niveau le plus bas des dernières années. Recevant jeudi à Abuja une délégation de leaders du delta du Niger, le président Buhari les a appelés à œuvrer de concert avec les autres responsables pour pacifier la région. Le chef de l'État a demandé le plus de renseignements possibles sur la situation. Nous entendons reconstruire ce pays. Il a connu beaucoup de dommages, a-t-il déclaré, exhortant les leaders du delta du Niger à dire à leurs administrés d'être patients. La semaine dernière, des sources au ministère nigérian du pétrole ont fait état de la signature d'un cessez-le-feu avec le groupe militant des Vengeurs du Delta, mais peu de temps après, ces derniers ont dit ne pas se souvenir d'avoir paraphé un tel accord. Dans l'espoir de favoriser le dialogue avec les militants, le gouvernement nigérian a annoncé début juin une réduction des opérations militaires dans le Delta du Niger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, la ministre de l'Intérieur, Theresa May, figure en bonne position dans la course à la succession de David Cameron, et ce, après la décision de Boris Johnson de ne pas se présenter.
La police turque a arrêté 13 suspects, dont 3 étrangers, au surlendemain des attentats suicides à l'aéroport Atatürk d'Istanbul.
Il y a 5 ans, l'administration Obama autorisait les homosexuels à servir ouvertement dans l'armée. Eh bien, la roue de l'histoire continue de tourner. Aujourd'hui, c'est au tour des personnes transgenres. Chérubin Gaby Dorsil.
C'est le secrétaire à la Défense Ashton Carter qui l'a lui-même annoncé. Il n'y aura désormais plus de restrictions au recrutement des transgenres. Le seul critère, ce seront les qualifications du candidat. En 2011, le Pentagone avait ouvert la porte de la plus puissante armée du monde aux homosexuels. Il y a 5 mois, les femmes ont eu droit au poste de combat. Et après une année de préparation, M. Carter a communiqué jeudi cette décision historique. Les personnes transgenres pourront non seulement servir ouvertement dans l'armée américaine, elles auront également droit aux soins médicaux appropriés de la part du système de santé militaire. La pratique est d'ailleurs déjà en cours dans le secteur privé. Dès le 1er octobre de cette année, les militaires déjà engagés nécessitant un traitement pour changer de sexe pourront obtenir les services de santé militaire, y compris une éventuelle intervention chirurgicale, même si la mesure annoncée ce jeudi ne sera effective que l'an prochain.
Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent avec le journal de l'Euro présenté par Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le Portugal rejoint le dernier carré de la compétition.
Comme il y a 4 ans et pour la 5e fois de son histoire, le Portugal sera en demi-finale de l'Euro. Il s'est qualifié hier au tir au but 5-3 après un match nul 1-1 face à la Pologne. Le Portugal affrontera le vainqueur du match Belgique-Pays de Galles. Le résumé de cette qualification avec Jean-Roger Billon.
Oui, on est allé au bout du suspense dans ce premier quart de finale au stade Vélodrome de Marseille. La rencontre débute très mal pour le Portugal. La Pologne prend l'avantage très tôt grâce à une belle reprise de volée de Robert Lewandowski dès la deuxième minute de jeu. Puis Renato Sanchez égalise pour le Portugal avant la mi-temps. Le score en restera là à la fin des 90 minutes de jeu et au bout des prolongations. Arrive alors la fameuse séance des tirs au but. Les quatre Portugais transforment leur tentative quand Jakub Błaszczykowski, quatrième tireur, s'élance et voit son pénalty repoussé par Rui Patricio. Ricardo Quaresma n'a plus qu'à marquer et délivre tout un peuple comme lors du huitième de finale. La Seleção jouera sa cinquième demi-finale de championnat d'Europe, la deuxième consécutive.
Le Portugal disputera donc la semaine prochaine sa cinquième demi-finale de l'Euro après celle de 1984, de 2000, 2004 et 2012. Le Portugal qui affrontera en demi-finale le vainqueur du match de ce vendredi, Pays de Galles-Belgique. Un grand favori face à un outsider pour une place dans le dernier carré. Notre correspondant en France, Christian Mpanzou, nous donne les clés de cette rencontre.
De tous les favoris de cet Euro, la Belgique est certainement l'équipe au parcours le moins complexe pour atteindre la finale. Mais avant de fouler la pelouse du Stade de France le 10 juillet prochain, les Belges devront battre le Pays de Galles. Boostés par leur large victoire en huitième de finale, les Diables Rouges sont en pleine confiance. Le capitaine Eden Hazard semble avoir pris la mesure de son rôle de leader technique sur le terrain, mais aussi de meneur d'hommes en l'absence de l'habituel capitaine Vincent Kompany. À ses côtés, Romelu Lukaku a fait taire la plupart des critiques en inscrivant deux buts. Mais face à eux, la coriace équipe galloise, emmenée de main de maître par Gareth Bale, le numéro 11 gallois, est co-meilleur buteur de la compétition avec trois réalisations. Le joueur du Real Madrid n'est pas le seul connu sur la scène européenne. Le milieu d'Arsenal Aaron Ramsey est un allié précieux depuis le début de l'Euro. Pour leur première participation à un championnat d'Europe, les Gallois ont déjà accompli l'exploit d'atteindre les quarts de finale et rêvent d'accrocher le dernier carré. Le match se jouera à Lille sous les yeux d'une très large communauté belge proche de la frontière. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
Et le choc de ces quarts de finale aura lieu samedi entre le champion du monde en titre l'Allemagne face à l'Italie. Le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. 48 ans pour l'Italie, 20 ans pour l'Allemagne. Voilà le nombre d'années qui séparent les deux mastodontes du football mondial de leur dernier titre européen. Cela fait désordre. D'autant plus qu'entre-temps, l'Italie a gagné deux Coupes du monde et l'Allemagne la dernière. Le brillant parcours des deux formations depuis le début de l'Euro 2016 ne les prépare pas à accepter une défaite précoce après un tel envol. L'Allemagne, qui a atteint le volume de jeu de son mondial brésilien, est devenue pour beaucoup le super favori de la compétition et les organisateurs rêvent déjà d'une demi-finale aux allures de finale qui l'opposerait au pays organisateur jeudi. Mais attention, l'Italie a déjà nettement battu deux autres favoris désignés du tournoi, la Belgique et l'Espagne. Elle a réussi à faire déjouer, ce qui peut aussi être tenté avec succès contre l'Allemagne. Surtout que l'histoire est de son côté. L'Italie a souvent gagné les grands chocs contre l'Allemagne dans les compétitions majeures comme les Coupes du Monde 70, 80 et 2006. Plus important, lors de ces rencontres, l'Italie a souvent tactiquement inversé les rôles et pris le jeu à son compte en faisant la course en avant pour des scores de 4 buts à 3 ou 3 buts à 1, qui n'avait rien à voir avec son traditionnel catenaccio. Certains diront à leur décharge que le Brésil était aussi considéré comme la bête noire de l'Allemagne jusqu'à la cruelle correction de 2014 avec le groupe actuel. Alors pourquoi pas l'Italie? Les paris sont ouverts. Réponse samedi soir. À lundi.
Le reste de l'actualité sportive en bref et on commence par Zlatan Ibrahimovic.
Oui, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic va découvrir la Première Ligue. L'attaquant suédois de 34 ans a annoncé qu'il rejoignait Manchester United où il retrouvera José Mourinho, qu'il a connu à l'Inter de Milan. La durée de son contrat n'est pas encore connue, mais les médias parlent d'un an avec une option. Avec le même salaire qu'à Paris, Zlatan Ibrahimovic devrait passer sa visite médicale et signer son contrat aujourd'hui.
Le tennis à Wimbledon.
L'Espagnol Garbine Muguruza, qui avait remporté le dernier Roland-Garros, s'est incliné en 2-7 face à la Slovaque Jana Sepelova, 124e joueuse mondiale. Le score 6-3-6-2. Quant à Andy Murray chez les hommes, il a tenu son rang sur le central de Wimbledon en écartant Yen Sunlu en 3 manches, 6-3, 6-2, 6-1.
C'était le journal de l'Euro présenté par Nicolas Pinot.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, depuis les attaques terroristes qui ont frappé Ouagadougou, la capitale, en janvier dernier, attaques qui ont fait une trentaine de morts, les Burkinabés se demandaient où en était l'enquête. Ce jeudi, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a levé un coin de voile, nous dit notre correspondant sur place. Parmi les suspects sérieux, il y a trois femmes, a dit le colonel Serge Alain Ouédraogo, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie et coordonnateur des investigations. En face de l'hôtel Splendide, qui a été une cible principale des assaillants le 15 janvier, il y a le maquis Bar Taxi Brousse, lieu de l'assaut final mené par les forces de défense et de sécurité. Zoumana Wonogo s'y est rendu.
Depuis les attaques terroristes qui ont frappé la capitale burkinabé en janvier dernier et qui ont fait une trentaine de morts, les burkinabés se demandaient où en est l'enquête. Ce jeudi, le ministre de la Sécurité a levé un coin de voile. On écoute le ministre Simon Compaoré.
À ce jour, le bilan est le suivant. 49 interpellations de plusieurs suspects de nationalités diverses. Après donc des investigations poussées, 39 personnes ont été relaxées pour insuffisance de preuves. Et 10 personnes ont été retenues, dont 3 présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capuchino, de Grand Bassam, de même que pour les attaques de Oursi en août 2015. 6 individus en lien avec l'attaque de Ouagadougou, dont les noms sont connus des services de sécurité, sont encore activement recherchés.
Parmi les suspects sérieux arrêtés, il y a 3 femmes, a assuré le colonel Serge Alain Ouédraogo. Il est le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie et coordonnateur des investigations.
Par rapport aux 3 dames, il y avait une voiture V8 qui a été beaucoup utilisée dans les opérations à la fois à Grand Bassam et à Capuchino, et qui servait à transporter les djihadistes mais également le matériel. Et le chauffeur principal donc, de ce véhicule a été identifié et c'est sa sœur qui a été interpellée au Burkina. Donc ce n'est pas un Burkinabé. Ça veut dire que la sœur n'est pas burkinabé également. Maintenant, les deux autres femmes, il y a une qui est la femme d'un des grands suspects qui a été interpellé. Et dans l'interpellation, sa sœur était également présente, donc ça fait 3 femmes.
En face de l'hôtel Splendide, qui a été une cible principale des assaillants, il y a le maquis Bar Taxi Brousse, le lieu de l'assaut final mené par les forces de défense et de sécurité. Nous y sommes allés pour avoir les sentiments du gérant sur l'avancée de l'enquête.
Mon nom, c'est Somda Eric. Le jour de l'attaque, j'étais présent. Sur cette information que le ministre vient de donner, moi, je suis très content de cette information. S'ils ont pu arrêter des gens, et des gens qui étaient à l'origine pour cette frappe, vraiment, ça me fait plaisir. Je souhaitais que cette enquête continue. C'est vrai que Taxi Brousse a été attaqué, mais la vie a repris à Taxi Brousse. Depuis lors, là, bon, les gens viennent, il y a la sécurité.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, au Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Au Tchad, les 8 jeunes accusés d'avoir violé la lycéenne Zuhura et d'avoir une vidéo de leur crime sur les réseaux sociaux ont été condamnés jeudi à des peines de prison. L'un a écopé d'un an de travaux forcés et les 7 autres, y compris Tidjani Miss, qui est en cavale, 10 ans de la même peine. Les condamnés sont des fils de dignitaires tchadiens et certains au Tchad avaient craint qu'ils ne soient pas jugés. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction du père de Zuhura, l'homme politique Mahamat Brahim Yesko.
Après plusieurs critiques dont les Tchadiens ont critiqué la justice tchadienne, en soi-disant qu'ils ne font pas leur travail, ce sont les enfants des superpuissants qui vont suivre le pays, ainsi de suite. Mais quand même, la justice tchadienne a fait son travail. Maintenant, il reste à donner le dommage intérêt de ma fille. Les 2 enfants qui sont morts à Fayal-Arjo et à N'Djamena doivent être dommagés. Les malades et les blessés doivent être soignés par le gouvernement. Et ainsi, des personnes qui ont perdu des centaines de millions dans des marchés incendies doivent être dommagées. J'attends ça patiemment de la part du gouvernement tchadien.
Certains des violeurs ont été condamnés à 10 ans de travaux forcés. Que pensez-vous de cette sentence?
C'est les peines de leurs actes que l'on vit. Les actes que l'on commis à condamner parce que le gouvernement tchadien déjà a donné l'indépendance à la justice tchadienne de faire son travail. Donc la justice tchadienne a fait son travail et c'est une bonne chose.
Mais à propos de l'indépendance de la justice tchadienne, les magistrats tchadiens eux-mêmes font état de pression sur eux.
Oui, tout le monde a fait pression, l'État tchadien, les sociétés civiles, les étudiants, tout le monde a fait des pressions et la justice a pris acte.
Votre fille n'a pas assisté au procès, vous non plus, pourquoi?
Non, ils ne nous ont pas appelés, ils ne nous ont pas associés.
Mais est-ce que c'est...
Ni les avocats.
Est-ce que c'est normal, ça?
Non, mais ils ne nous ont pas appelés, qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas associés, qu'est-ce qu'on peut faire? Ni moi, ni les membres de la famille, ni les avocats, il n'y a personne, ils leur ont dit leur verdict. Maintenant, on va courir vers la Cour correctionnelle pour demander les dommages intérêts de ma fille.
Selon vous, quel sera l'impact de cette affaire Zoura au Tchad?
Maintenant, ça commence à donner raison à la justice tchadienne et les autres. Maintenant, ça donne déjà peur aux autres de perdre ces genre d'actes parce qu'ils en ont commis plusieurs. Et maintenant, je crois que c'est le dernier. C'est un exemple que ma fille a donné volontairement et puis ça peut sauver les autres filles tchadiennes. Et même en Afrique et en monde entier.
Mais vous pensez que d'autres filles auront le courage de dénoncer des exactions comme votre fille l'a fait?
Exactement. Désormais, personne ne peut garder ça. Parce qu'après Zoura, tout le monde a dénoncé. Il y en a presque 7-8 plaintes en ce moment.
C'était l'homme politique Mahamat Brahim Yesko, père de la lycéenne Zuhura. Il a été joint à N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Le troisième vice-président du mouvement anti-esclave Ira Mauritanie, Diop Amadou Tidiane, a été arrêté mercredi soir à Nouakchott, a dit à VOA Afrique Biram Da Abeid, le président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, qui dénonce plusieurs arrestations et des violences policières lors d'une opération d'éguerpissage mercredi. Tout juste sorti de prison le mois dernier, il est actuellement à Washington où le secrétaire d'État américain John Kerry lui a décerné un prix. Chaque année, le département d'État rend hommage à des personnalités qui ont consacré leur vie à la lutte contre la traite des êtres humains. Nathalie Barge a rencontré, a tendu le micro, à Biram Da Abeid.
Je dénonce sur vos antennes la violence indicible qui s'est abattue hier sur un groupement, un bidonville constitué de Hratin et de Noirs, en majorité des femmes et des enfants qui ont été la cible d'une attaque très violente des différents ordres militaires en Mauritanie, que ce soit la gendarmerie, la garde nationale ou la police nationale. Beaucoup de femmes, d'enfants ont été violentés de manière extrême. Il y a eu des arrestations, des tabassages, de la torture, des violences et je dénonce l'arrestation du vice-président de l'Ira, Amadou Tidiane Diop, et des autres militants de l'Ira, arrêtés dans ces conditions, conduits de chez eux vers des destinations inconnues et auxquelles les parents et les amis n'ont pas de nouvelles depuis
hier. On a encore donc des militants de l'Ira qui sont emprisonnés.
Depuis hier, il y a une série d'arrestations au sein des rangs de l'Ira et une répression violente qui s'est abattue sur beaucoup de militants d'Ira, mais aussi des personnes humbles qui ne voulaient pas être déguerpies de leur lieu d'habitation sur lequel ils ont passé 20 ans. Je voudrais encore, sur la violence et l'oppression faite aux femmes, parler d'un cas ou deux, d'un Barkhamet Essatin qui est victime d'esclavage, qui est né esclave, propriété d'un homme qui a commencé à la violer, qui l'a séparé avec sa mère dès l'âge de 5 ans, qui a commencé à la violer dès l'âge de 10 ans, qui lui a donné deux enfants dans le cadre de ce viol. Et après, le fils de ce même homme a commencé à la violer, ce qu'elle a eu aussi un enfant avec lui. Toutes des filles. Et cette femme qui est meurtrie dans son corps, dans son âme, nous l'avons aidée à se libérer. On a porté plainte, mais les autorités supérieures en Mauritanie refusent d'atteindre cet homme car il a des liens familiaux avec les hautes autorités de l'État. C'est un homme d'affaires riche et il a même été élu député. Et Barkhamet Essatin court toujours derrière la justice. Et l'État mauritanien refuse de lui octroyer la justice. Je veux dire aux auditeurs que ce cas n'est qu'un seul cas parmi des milliers d'autres cas. Et c'est des cas que nous ne lâcherons jamais jusqu'à ce que la justice soit faite.
Da Abeid, le président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, en Mauritanie. Et vous pouvez entendre cette interview dans son intégralité sur voaafrique.com.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Royaume-Uni, après la victoire du Brexit, les insultes et les actes xénophobes se sont multipliés. Les communautés polonaises, pakistanaises et d'autres personnes de confession musulmane sont les plus visées. La députée travailliste Jess Phillips a promis de porter cette question devant le Parlement britannique. Qu'est-ce qui explique cette vague d'actes racistes? Éric Manirakiza a joint à Londres René Claudel Mugenzi du London Center for Social Impact.
C'est en train d'être manifesté par des gens que je pense avaient ce tendance raciste avant, mais ils croyaient qu'avec le Brexit, les gens qui viennent des autres pays, qui n'aiment pas, qui vont quitter. Et ils ont vu que les personnes n'ont quitté le pays, puis ils ont été frustrés. Certains d'entre eux ont commencé à attaquer un instituteur, les gens des autres pays, à cause de cela.
Est-ce que c'est un discours qui était développé, par exemple, pour sortir de l'Union européenne?
Non, je crois pas. Bon, le discours a été développé pendant cette période, mais je ne crois pas que les gens qui ont fait la campagne, c'est eux qui ont fait que ça a monté, parce que ce sont les gens seulement qui voyaient le Brexit comme une opportunité pour que les gens qui n'aiment pas quitter le pays, ils ont voté en pensant que ça allait se faire, mais ça ne s'est pas fait. Donc c'est ça, ce n'est pas la campagne qui a fait ça, mais eux, ils ont pris le référendum comme un moyen de penser que le référendum va les aider à déporter tous les gens ou les gens vont partir du pays.
Oui, mais il y a des gens qui ont eu peur et qui ont décidé de quitter le Royaume-Uni.
Et le nombre, ces petits nombres, et aussi il y a des enfants qui n'ont pas parti à l'école parce qu'ils pensent qu'ils seraient arrêtés, déportés, mais le nombre des gens qui ont quitté, ils sont vraiment peu. Le pays n'a pas déporté ou n'a pas demandé déjà de quitter. Même les gentils leaders du Brexit campaign ne sont pas en train de demander déjà de quitter.
Et c'est une situation maîtrisable?
Tous les côtés du campagne, vraiment, ils sont en train de demander à la population d'arrêter. La police, il est en train de faire une bonne campagne d'arrêter ces gens-là qui sont en train de faire ça. Ils ont tenté d'envoyer les messages partout que les gens qui seront vraiment arrêtés, emprisonnés, que ça ne serait pas tolérable. C'est à cause de la tension qui était derrière toutes ces campagnes et ce référendum. Je pense qu'à cause de cela, et j'espère que dans quelques jours, ce sera terminé.
René Claudel Mugenzi à Londres. La Minute Éco, John Linden.
La compagnie de pétrole nationale nigériane, la NNPC, a annoncé hier jeudi avoir signé des contrats pétroliers à hauteur de 80 milliards de dollars avec des entreprises chinoises. Cela dans le but de parvenir à combler le financement d'infrastructures dans le secteur pétrolier et gazier au Nigeria. 44 millions de dollars, c'est le montant des fonds que la Banque africaine de développement vient d'approuver en faveur du Tchad. Ce soutien devrait permettre le financement de la seconde phase du programme d'appui aux réformes des finances publiques. L'incertitude générée par le vote britannique en faveur d'une sortie de l'Union européenne constitue le principal risque qui pèse sur l'économie mondiale, a estimé hier jeudi le Fonds monétaire international. Nous considérons l'incertitude actuelle comme étant sans doute le principal risque pour l'économie mondiale, a déclaré le porte-parole du FMI, Jerry Rice, appelant les dirigeants européens à prendre des actions décisives.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.